Bien, bonjour à tous. Je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité et je dois vous féliciter puisque je sais que, en fin de compte, vous avez gagné la possibilité de m'inviter puisque vous avez répondu à un appel d'offres de la région, qui est un appel d'offres qui vient d'un petit peu plus loin puisque c'est l'Université de tous les savoirs qui offre la possibilité aux lycéens, je vais vous appeler étudiants parce que j'ai tellement l'habitude d'avoir des étudiants en face de moi que je vais faire des lapsus, donc vous ne m'en voudrez pas. Et donc, vous avez été choisi, et vous avez choisi vous-même le thème du dopage, qui est un thème d'actualité, puisqu'on en parle tous les jours, et puis je crois hélas qu'on en parlera encore pendant longtemps, et se pose des problèmes d'actualité que vous me renverrez certainement, puisque vous savez qu'il va y avoir les Jeux Olympiques en Chine, et que ça n'est pas sans poser des problèmes économiques, des problèmes éthiques, peut-être dont nous parlerons. Alors, je vais donc vous présenter ce diaporama. Bon, je me félicite d'être ici dans ce lycée qui m'a l'air dynamique. En tout cas, vous êtes mis ensemble autour d'un projet. Vous avez construit ce projet, vous en avez discuté, vous avez élaboré, vous avez plein de questions à me poser. Ça me fait un petit peu peur parce que je pense que vous avez préparé des questions sournoises auxquelles je ne suis pas sûr de pouvoir être tout à fait compétent, mais j'essaierai de temps en temps de botter en touche si je ne sais pas répondre. Pour nous mettre aussi en empathie, j'ai été moi-même étudiant à Bordeaux, et donc c'est un plaisir de cette région que je partage avec vous. On vous a dit en effet que je venais de Montpellier, et bien pour ceux qui n'ont jamais été à Montpellier, voilà Montpellier et à gauche la faculté de médecine qui est la plus ancienne d'Europe puisqu'elle a été construite au XIIe siècle. Alors pourquoi je suis parmi vous? Bien, la première diapo le montrait. Premièrement donc, je suis un universitaire, donc j'enseigne et je dirige un laboratoire qui est spécialisé, donc un laboratoire qui est piloté par l'État, qui est spécialisé sur les conduites addictives, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi les gens boivent, fument, se dopent, etc. Et également, la deuxième partie du nom du laboratoire, c'était performance et santé, puisque notre problématique, c'est peut-on aujourd'hui faire de la performance tout en respectant sa santé? Et pourquoi également j'ai accepté d'être parmi vous? C'est que depuis 10 ans, eh bien, je suis responsable d'un service téléphonique qui s'appelle Écoute Dopage, que j'espère vous retiendrez, en tout cas par ce terme mnémotechnique 0815-2000, et c'est un service d'écoute téléphonique et d'aide, et nous répondons à toute personne qui est confrontée à des problématiques de dopage ou d'addiction, et aujourd'hui nous avons répondu à plus de 100 000 appels. C'est pour vous dire que le vécu du dopage, eh bien, c'est notre lot quotidien à toute notre équipe. Alors, le dopage, eh bien, vous voyez que ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque depuis très longtemps, 4500 ans, les gens qui vivent très haut dans les Andes, les Chinois, mâchent de la cola, de la coca et de la cola, et évidemment, ça leur permet de faire des performances et de vivre en haute altitude. Alors, c'est une très vieille histoire, puisque dans les premiers Jeux Olympiques, eh bien, les athlètes consommaient des produits qui étaient de leur époque, mais c'était que de la viande de chèvre ou de taureau. Alors, on en consommait tout un tas de parties, parce qu'on pensait en effet que ça donnait de la puissance. Alors, on a une grosse définition actuellement, qui est, qu'est-ce que c'est que le dopage? Et comment peut-on le définir? Alors, au départ, la première définition étymologique, ça vient de tout dop, et en fin de compte, ça concerne les chevaux et les paris sur les chevaux. Et c'est pas pour rien que actuellement également le dopage concerne les cheveux. Vous avez une deuxième définition, toujours de l'anglais, où ça désigne une boisson contenant soit des noix de cola, soit de l'alcool, soit un excitant. Alors, aujourd'hui, eh bien, si on regarde dans le droit qui va nous donner le code du sport, eh bien, c'est la définition est inscrite aussi bien sur le code de la santé publique, ça montre que ça a un rapport avec l'État et la santé, mais c'est également, ça fait partie du code du sport, c'est-à-dire, ça fait partie du livre sur l'éthique du sport. Alors, en fin de compte, aujourd'hui, on proclame sur le plan juridique qu'il est interdit à toute personne, au cours de compétition ou manifestation, soit d'utiliser des substances ou des procédés de nature à modifier artificiellement les capacités, ou également il est interdit de prendre des produits qui viseraient à masquer la prise de ces produits ou de ces procédés. Et également, il est dit qu'il est interdit de recourir à des procédés et des substances qui sont définis comme étant interdits. Alors, qui les définit ? Eh bien, aujourd'hui, la loi est énoncée par l'Agence mondiale antidopage, l'UNESCO, le Conseil de l'Europe et les différents États qui ont signé des protocoles d'accord avec ces différents organismes. Alors, l'AMA, c'est l'Agence mondiale antidopage, c'est-à-dire, on le reverra, une organisation qui a été créée pour mettre de l'ordre et pour harmoniser les comportements et les sanctions. Alors, en France, on s'est préoccupé bien avant beaucoup d'autres pays du dopage dès qu'il y a eu les premières lois sur le sport, et en particulier le premier secrétaire d'État au sport, Herzog, a promulgué un texte dès 1965, ce qui est assez rare, puisqu'on va trouver beaucoup d'autres pays qui sont actuellement, qui n'ont pas encore promulgué de loi. Ensuite, on fait un grand saut. En 1999, il y a la loi Buffet, et la loi Buffet, elle fait un énorme pas en avant, puisqu'elle va poser le problème du dopage comme un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'on fait une rupture, on ne considère pas que c'est quelque chose de mineur, d'anodin, qui concerne deux ou trois personnes, mais c'est un véritable problème de santé publique. On verra pourquoi tout à l'heure. Alors, à ce titre, elle met en place le conseil, le CPLD, c'est-à-dire le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, qui a pour mission prévenir et punir. Ensuite, elle crée des antennes médicales de lutte contre le dopage. Dans chaque région, on reverra, il y a cette antenne médicale. Donc, il va proposer des consultations et va essayer de lutter. Et puis, il y a dans cette loi un alourdissement des sanctions pénales et des sanctions posées par les fédérations. C'est-à-dire qu'auparavant, eh bien, les gens qui prenaient des produits n'étaient pratiquement pas sanctionnés ni par leur fédération, ni sur le plan pénal, puisqu'on les considérait en fait comme des victimes. Il n'y avait que ceux qui distribuaient les produits qui étaient susceptibles d'être punis, d'aller en prison ou d'être sanctionnés. Ensuite, un pas en avant assez important, en 2006, donc le ministre M. Lamour, met en place un dispositif qui s'appuie sur le code mondial antidopage. C'est-à-dire, il ne se contente pas de faire une loi française, mais il adapte la loi française au code mondial international. Vous voyez ? Et il fait changer les articles de la loi pour que ceux-ci correspondent directement au code de l'Agence mondiale antidopage et ils renforcent la protection des sportifs, on le verra également tout à l'heure, en instaurant par exemple le suivi médical obligatoire des sportifs de haut niveau. Donc une nouvelle loi qui fait un pas en avant. Et juste avant de quitter le ministère des Sports, le 5 avril 2006, eh bien, la loi évolue encore et là le ministère sépare ce que l'on appelle le CPLD, l'ancien CPLD, il crée une agence française de lutte contre le dopage, complètement indépendante du gouvernement, et qui a pour mission de mettre en place les contrôles en France, et qui a pour mission de veiller à ce que les personnes contrôlées positives soient sanctionnées correctement par leur fédération. Et donc, elles peuvent faire appel vis-à-vis des sanctions des fédérations, qui sont souvent très clémentes par rapport à leurs sportifs, et elle est pratiquement une cour d'appel. Donc on sépare en fin de compte le côté prévention qui va être continué par le ministère des Sports, du côté répression, d'accord, et loi, hein, punition, qui est uniquement pris par l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors, une question se pose, mais quelle population de sportifs est touchée par ce fléau? Eh bien, contrairement à ce qu'on croit, et ce dont on parle en général, le dopage sportif ne concerne pas que l'élite. En fin de compte, il y a une espèce de surmédiatisation des cas de sportifs de haut niveau qui sont contrôlés positifs. Cette surmédiatisation fait que tout le monde pense en général que ça ne concerne qu'un nombre infini de personnes, et en France, en fin de compte, il n'y a que 6000 personnes de haut niveau. Alors, l'illusion médiatique, celle que l'on a tous, hein, eh bien, c'est tous les cas scandaleux qui ont été mis en avant par la presse et sur lesquels on s'appuie pour dire « Vous voyez, tous dopés ». Donc, évidemment, avec des cas dramatiques, des cas bien français comme Richard Virenque, qui a avoué après 4 ans de déni, et puis Marco Pantani qui est mort d'une surdose, d'une overdose, et donc qui là montre des cas extrêmement graves, comme Tom Simpson qui est un coureur qui est mort lors des premiers Tours de France. Alors, ben non, voilà une diapo d'actualité. Et oui, le dopage n'épargne personne, et tout le monde en effet a recours à des produits qui visent à augmenter sa performance. Et on fera les distinctions, peut-être tout à l'heure, entre conduite dopante et dopage. Alors, en fin de compte, on prend très peu de personnes. Et c'est là un problème, puisque vous voyez que sur 221 contrôles, hein, eh bien, il y en avait que 27 qui concernaient les sportifs d'élite. En fin de compte, hélas, c'est, si vous me permettez l'expression, les pauvres qui se font prendre. Hein. Les grands champions, en général, savent comment prendre des produits et les masquer. Alors, quand même, en France, on ne peut pas banaliser les problèmes, puisque les contrôles, quand même, ont été multipliés par 6, et le nombre de gens qui se sont révélés prendre des produits interdits a été multiplié par 27. Il y a des chiffres beaucoup plus alarmants dans certains sports, tels que le cyclisme, où on a démontré qu'il y avait un pourcentage de 45% à peu près de cyclistes professionnels qui prenaient de l'EPO. Alors, si on regarde les contrôles, en fin de compte, il y en a eu 8000 en France, et sur ces 8000, on a trouvé que 4% de personnes dites dopées, c'est-à-dire contrôlées avec un produit interdit qui avait pu être testé. Alors, l'opinion publique, eh bien, elle n'est pas aussi naïve que ça, puisque vous voyez qu'en règle générale, on pense que 76% des sportifs prennent des produits. Bon. Et très répandu, c'est un deuxième temps, et là, il y en a 48% répandu, assez répandu, et 28% très répandu, donc si on fait la somme, eh bien, c'est 76% des gens qui pensent que les sportifs prennent des produits. Alors la question c'est, pourquoi les athlètes se dopent-ils? Alors, ils se dopent, eh bien, pour des raisons très différentes et extrêmement complexes, parce que le sportif est dans un environnement soumis à la pression des sponsors, de la famille, des médecins, des entraîneurs, des dirigeants, des médias, et tous ceux-là sont en fin de compte des acteurs du dopage, car on voit aussi bien des familles qui poussent les jeunes à prendre des produits que des sponsors qui veulent absolument des victoires, etc. Donc, vous voyez, il n'est pas tout seul, il n'est pas le seul responsable, il est dans un système écologique qui est complexe, et chaque individu va avoir une raison particulière pour prendre des produits. Il n'y en a pas qu'une seule. Alors, on va examiner rapidement donc les facteurs qu'on peut reconnaître. Il y a les facteurs prédisposants et les facteurs incitants, et les deux vont déclencher le passage à l'acte. Alors, si on regarde extrêmement rapidement, il y a l'appartenance sexuelle dans le sens où les garçons prennent des produits d'une manière beaucoup plus importante que les filles. Bien, bon. Alors, voilà une diapo qui est très intéressante dans le sens où, même s'il y a des effets négatifs sur la santé, vous voyez qu'il y a 10% de garçons à l'université, 11% de garçons en terminale, qui accepteraient de prendre le risque. Il y a eu des enquêtes aux États-Unis où on précisait même aux jeunes gens, en sachant que vous allez mourir dans les 15-10 ans qui vont venir, eh bien, les chiffres ne variaient pas beaucoup. Regardez également que il y a également une grande différence par rapport à la position éthique, c'est-à-dire au respect de la loi et de l'éthique sportive, puisque vous voyez que également 7,5% des garçons terminales contre 3% des filles disent que bon, ça ne les gêne pas sur le plan éthique ni sur le plan moral. Bon. Alors, les facteurs propres à l'usager, eh bien, il y a les catégories socio-professionnelles. Oui, on remarque que, évidemment, les sportifs issus, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les enfants de cadres et de professions intermédiaires sont beaucoup plus fragiles, vulnérables à la prise de produits, certainement parce qu'ils sont poussés à la compétition, et que poussés à la compétition par des parents qui veulent un petit peu qu'ils réussissent, eh bien, ils sont vulnérables, ils sont sensibles à la tentation d'en prendre. Alors, vous avez également, donc, là c'est très vite, l'âge. On prend plus de produits en étant jeune qu'en étant vieux, parce qu'en jeune, on est en pleine performance. Et pratiquement tous les sportifs de votre âge qui se font prendre au cannabis. Bon. Les autres, pareil, 18 ans, il n'y a plus aucun sportif qui se fait prendre au cannabis. Hein? Ensuite, la personnalité, eh bien, il y a évidemment des facteurs de vulnérabilité. Il y a des gens qui vont être plus fragiles psychiquement et qui vont avoir besoin d'un petit complément pour pouvoir réussir. Voilà. Et cette idée de tout seul j'y arriverai pas est en fin de compte à la base de la prise de produit. Ensuite, vous avez la logique du milieu sportif que je vous laisse lire. Bien entendu, le sport c'est gagné, le calendrier est de plus en plus chargé, les charges d'entraînement, maintenant il y a des préparateurs physiques. C'est plus de la rigolade, hein. On s'entraîne plus dans les petits clubs, on ne s'entraîne plus comme autrefois. On fait de la musculation et on en fait 4 à 5 fois par semaine. Les enjeux économiques, maintenant on gagne beaucoup d'argent avec le sport, et Également, dernier point, l'isolement social. Celui qui prend des produits est en général quelqu'un de très seul. Très seul dans sa tête et très seul dans son environnement social. Il y a également donc les logiques du milieu extrasportif. Absence de préparation à l'échec, oui, eh bien, il y a quelques naïfs qui pensent qu'on devient champion du monde de judo sans jamais tomber par terre, que ça arrive comme ça. Et donc, en fin de compte, savoir faire du sport, c'est se préparer à l'échec et toujours savoir rebondir après l'échec. Manque d'investissement diversifié, ça veut dire que, hélas, dans les centres de préparation de haut niveau, eh bien, les gens ne font que du sport, que du sport, que du sport, et ils restent prisonniers. Ensuite, la pression familiale, elle est des fois énorme. C'est la revanche des parents par rapport à ce qu'ils n'ont pas pu faire. La médicalisation, maintenant, donc, en effet, il y a des médecins qui sont des médecins de la performance. Et puis, vous avez donc la promotion des produits que vous allez voir partout. Alors, autre chose, rapidement, eh bien, si les parents boivent, les enfants trinquent, vous connaissez cette boutade et cette publicité, eh bien, on peut dire en effet que si les parents ont l'habitude de prendre des produits, même non interdits, ils montrent à leurs enfants qu'il faut avoir un petit produit pour pouvoir réussir. Et en règle générale, la consommation parentale induit la consommation des enfants. Et vous avez bien entendu le rôle des pères, c'est-à-dire si autour de vous, eh bien, il y a une banalisation de la prise de produits, eh bien, pour vous, ça paraîtra normal. Alors, on voit l'effet de la publicité. Il faut être beau, jeune, en bonne santé, toujours, à tout âge. La publicité, toujours plus performant, doper votre voiture. Vous voyez aussi le paradoxe linguistique, hein, qui fait que le mot doper est associé à quelque chose de positif en dehors du sport. Et puis vous avez aujourd'hui Internet sur lequel vous pouvez commander anonymement tous les produits que vous voulez, des plus alarmants sur le plan de la santé, au plus simple, et là c'est en effet un piège énorme. Alors, rapidement, c'est donc l'Agence française de lutte contre le dopage qui, en France, fait les contrôles en suivant donc les indications de l'Agence mondiale qui publie donc la liste des produits interdits. Alors, on va voir ici quels sont, en fin de compte, les produits qui sont interdits dans le domaine du sport. Alors, les diurétiques, vous lisez, on va les revoir rapidement. Alors, les stimulants. Eh bien, évidemment, le stimulant, c'est le pot belge. Et les effets recherchés, vous les voyez, c'est concentration, agressivité, etc. Et les troubles secondaires, c'est troubles cardiovasculaires, tachycardie, troubles du système nerveux et également troubles mentaux, puisque si les gens sont trop énervés, ça pose problème. Évidemment, ça peut entraîner la mort, tel que on le voit sur cette image, par la prise d'amphétamine. Ensuite, vous avez les bêta-agonistes. Donc, ce sont ceux qui ont des effets sur la bronchodilatation, c'est-à-dire sur la capacité à prendre de l'oxygène, hein, à respirer, et vous avez également donc les narcotiques qui vont être pris pour pouvoir bien dormir, être relaxé, etc. Évidemment, il y a une énorme dépendance à ces produits, de la rythmique cardiaque et également des tremblements et de l'anxiété dans certains cas. C'est-à-dire que, en fin de compte, on a souvent l'effet inverse. Alors, vous avez les plus connus, les stéroïdes anabolisants, qui agissent sur le développement musculaire, sur la force, sur la puissance, hein. On connaît donc en particulier Ben Johnson, hein, et Florence Griffiths, qui est morte il y a 37 ans d'une rupture d'anévrisme qui est certainement due à ce type de produit. Les effets, eh bien, c'est le cancer des organes génitaux et également, bon, si c'est une jeune fille qui prend ce type de produit, une masculinisation et en fin de compte des troubles psychiques assez importants, puisque les anabolisants entraînent de l'agressivité. Autre produit, bah, les diurétiques. Les diurétiques servent à quoi? Ils servent à masquer l'ensemble des autres produits, ou en même temps, vous le savez, les jeunes filles, à maigrir, puisque les diurétiques font éliminer l'eau et donc font perdre du poids. Donc c'est très utilisé dans tous les sports où on surveille le poids. Et évidemment, si on perd de l'eau, déshydratation, attaque du rein, hypotension et des problèmes de surdité. Évidemment, les diurétiques sont des produits masquants utilisés par les haltérophiles qui eux-mêmes prennent des anabolisants. Et ensuite, évidemment, ce que l'on connaît en particulier, c'est le PO, hein, c'est-à-dire les érythropoïétines, où ça améliore le nombre de globules rouges et la capacité de respiration. Et bien, quand on a fait l'isoar comme ça avec de l'eau de Lourdes, et qu'on fait l'isoar avec le PO, et bien on ne refait jamais l'isoar avec l'eau de Lourdes. Parce que bon, avec le PO, on a l'impression de monter comme si on était sur une mobylette. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on a pris le produit, on ne retourne pas en arrière. On est passé de l'autre côté du miroir. Alors évidemment, les effets secondaires, on connaît l'hypertension, les caillots sanguins. C'est pour ça que les cyclistes, ils montent des escaliers toute la nuit pour que le sang se fluidifie. Sinon, ils risquent le caillot et l'embolie. Alors, rapidement également, l'hormone de croissance extrêmement... Ah, s'il vous plaît. Bon. L'hormone de croissance, alors c'est évidemment quelque chose d'extrêmement grave, hein, puisque... ça augmente la masse musculaire, mais ça déforme les os, ça provoque des insuffisances cardiaques et des troubles en particulier thyroïdiens. Donc c'est un produit extrêmement dangereux. Ensuite, il y a des substances, mais qui ne sont interdites que dans certains sports, l'alcool. Pas partout, il y a certaines fédérations qui ne contrôlent pas la dose d'alcool. Alors, évidemment, les pilotes automobiles, etc., les coureurs de moto, l'alcool est interdit, hein, je comprends. Deuxième élément, les bêta-bloquants, eh bien, c'est pour se calmer, hein, donc c'est interdit chez les tireurs, chez tous les gens qui font des activités physiques de précision. Il y a également, comme tout, des effets secondaires, puisque ça provoque en particulier des vertiges et des crises d'asthme. Et il y a donc non seulement des produits, mais des procédés. Alors vous savez que tout ce qui transfère l'oxygène, tel que le dopage sanguin par transfusion, est interdit. Et vous venez de voir que maintenant, le dopage sanguin est contrôlé et que plusieurs sportifs de très haut niveau viennent de se faire exclure, non pas pour avoir pris des produits, mais pour avoir... utiliser les procédés de transfert d'oxygène, c'est-à-dire ils ont mis du sang de côté et ils ont récupéré leur propre sang au moment où leur sang sous l'effort se vidait d'oxygène. Évidemment, toutes les manipulations pharmacologiques et chimiques sont interdites et le dopage génétique que l'on voit commencer à apparaître, évidemment profondément interdit, mais contrairement à ce qu'on croit, le dopage génétique sera facilement repérable parce que on verra que c'est un effet en exogène, c'est-à-dire que ça sera une manipulation et que ça n'est pas le gène naturel de la personne. Alors, ici vous allez... Mais alors, quand on est sportif, tout est interdit. Alors, comment on fait pour, quand on est malade, ça arrive? Eh bien, il existe des autorisations d'usage à des fins d'usage thérapeutique, c'est-à-dire si vous prenez un médicament, si vous faites du sport... Eh bien, vous devez remplir cette autorisation et la transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage, qui va statuer sur votre sort dans les 48 heures, si vous n'avez pas de réponse, eh bien, c'est que vous êtes autorisé. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut autoriser? Eh bien, parce que sinon, eh bien, il y aurait un préjudice de santé important. Sinon, en fin de compte, le produit est vraiment un produit pour la santé et il n'améliore pas tellement les performances. Et puis, troisième élément, eh bien, pour l'instant, hein, pour certaines maladies cardiaques, etc., grandes maladies, eh bien, il n'y a pas d'autre produit. Donc, on a le droit d'être un malade et de faire du sport. Voilà. Et de prendre les médicaments qui permettent de pratiquer cette activité qui est excellente pour la santé. Alors, est-ce qu'il faut lutter contre le dopage? Ben oui, parce que le numéro un, c'est la prévention de la santé. Et tout ce que fait l'État a comme but la prévention des risques. Voilà. Faire du sport, c'est un risque. Et en particulier, le risque que l'on a, c'est d'avoir la tentation ou la sollicitation de prendre des produits et d'agir négativement contre soi-même, contre sa propre santé. Et donc, c'est le rôle de l'État, et c'est pour ça que je suis ici, et c'est pour ça que nous travaillons avec le ministère des Sports et le ministère de la Santé, pour protéger les jeunes, en particulier, vis-à-vis de certaines possibilités. Alors, oui, pour préserver l'outil éducatif qui est le sport, hein, le sport est quelque chose de culturellement très important, d'internationalement une possibilité de socialisation, et le sport est un merveilleux outil, donc, éducatif, de socialisation et d'éducation à la santé. Puisque qu'est-ce qu'on apprend dans le sport? On apprend à vivre son corps, et on doit l'apprendre également à l'aimer et à le respecter. Et lutter contre le dopage sportif, oui, parce que il y a aussi une mafia qui s'enrichit. Et si vous voulez, cette mafia, je lisais dernièrement, on estime que l'économie souterraine des produits de dopants est de 70 milliards d'euros. C'est un article qui vient de paraître d'Economist. Alors, comment fait-on, en fin de compte, pour lutter contre le dopage? Eh bien, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde au niveau mondial et au niveau national. Il y a donc le Conseil de l'Europe, l'Agence mondiale, l'UNESCO, hein, qui ont émis des lois, des chartes internationales sur lesquelles tous les pays du monde s'appuient et adhèrent. Maintenant, il ne reste plus que 10 pays qui n'ont pas adhéré à ces chartes internationales. Le CIO, c'est-à-dire le Comité international olympique, les fédérations, pratiquement maintenant les fédérations s'impliquent de plus en plus, même certaines qui résistaient en disant « chez moi il n'y a pas de dopage » ou « de toute façon on ne peut pas le contrôler puisque les athlètes ne sont pas là », eh bien s'y mettent. Vous avez le ministère de la Santé avec la mine de DT, etc., l'Agence française de lutte contre le dopage, le ministère des Sports, le Comité national olympique, les structures sportives, les structures régionales, les directions régionales et directions sanitaires, et les CROSS et les CDOS. C'est-à-dire que tout ça, toutes ces institutions, se mettent leurs moyens en hommes et en argent en commun pour lutter contre le dopage. Alors, au niveau international, on voit quand même que ça bouge, hein, puisque il y a renforcement des contrôles antidopage, et donc ces contrôles sont de plus en plus nombreux, et l'Agence mondiale maintenant intervient pour que il y ait au moins 2 à 3 000 contrôles qui sont vigilantés, programmés par son autorité et sous son contrôle. C'est-à-dire que ce ne sont plus les fédérations qui ont la main. Alors regardez, à Athènes, il y a eu quand même pas mal de cas pour la première fois aux Jeux Olympiques, ils étaient tous non dopés. Bon, aujourd'hui, on voit que on a fait un certain pas en avant. Si vous voulez, c'est un petit pas sur la Lune, comme dirait, mais c'est un immense avancée pour l'homme, parce que ça veut dire que demain, on a changé d'esprit. Voilà. Ce n'est plus l'omerta, maintenant, c'est véritablement des politiques. Alors, je vous ai dit que un des acteurs de cette politique, c'est l'Agence mondiale, c'est-à-dire que maintenant, c'est organisé au niveau mondial. Et tous les pays du monde y adhèrent et suivent ces dimensions-là. Alors, au niveau national, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, donc, je vous ai dit que c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui a maintenant autorité sur les contrôles et sur les sanctions. C'est très important parce qu'elle est indépendante, elle a un budget propre et demain, si vous êtes contrôlé, demain, si vous avez à rendre compte, c'est à cette agence mondiale, agence française, que vous aurez à rendre des comptes. Donc il n'y a plus de politique, vous êtes d'accord? Il y a une structure indépendante qui développe sa propre politique. Dans chaque région, il y a une antenne médicale de prévention du dopage. Il y en a une à Bordeaux, bien entendu. Je crois qu'elle est dirigée par le docteur Serge Simon, qui est un ancien rugbyman international. Et donc, dans ces antennes, eh bien, vous pouvez gratuitement recevoir des soins, des conseils. Vous pouvez, la veille sanitaire, c'est faire les statistiques. Des actions de prévention, des actions d'information, des actions de formation pour tous ceux qui voudraient avoir un brevet ou une qualification dans la prévention vis-à-vis du dopage et de la recherche. Donc, vous avez également... Donc, vous avez... C'est mis en place... obligatoirement le suivi médical et biologique du sportif, c'est-à-dire que dès que vous êtes un sportif de haut niveau, vous devez obligatoirement, deux fois par an, être suivi par un médecin spécialiste et vous allez avoir un carnet. Et vous avez entendu aujourd'hui que, au niveau du comité international olympique pour les cyclistes, chaque athlète devra avoir un carnet où ces indicateurs physiologiques et biologiques seront marqués, et toute variation de ces indicateurs seront des indicateurs d'une susceptibilité de prendre des produits ou des procédés interdits. Donc ça, c'est quand même très, très important. Au niveau national, donc, vous avez un numéro vert, qui s'appelle les coups de page dont on va parler. Vous avez... une fondation Sport Santé qui édite des formations. Vous avez un site qui s'appelle dopage.com qui est à la disposition donc de l'ensemble des sportifs pour leur donner des informations. Donc, vous connaissez peut-être cette mallette et si vous avez des exposés à faire, je vous renvoie vers cette mallette extrêmement complète qui est éditée donc par le Comité National Olympique et qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur les produits, les contrôles, etc., etc. Ensuite, vous avez le service que je dirige, qui est Écoute Dopage. Et donc, il y a un site internet, écoutedopage.com, sur lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et on vous répondra par mail ou par téléphone immédiatement. Alors, c'est un service d'accueil téléphonique gratuit, anonyme, fait par des professionnels, il y a 8 psychologues, 2 médecins, un pharmacien, et qui est ouvert à tous. C'est-à-dire que n'importe qui, bien entendu, peut téléphoner. Donc, le but, c'est informer sur toutes les questions, toutes les demandes d'information, prévenir, c'est-à-dire faire réfléchir les gens à la situation qu'ils rencontrent, les soutenir, parce que quand un jeune homme de 18 ans s'était contrôlé positif et qu'il est renvoyé de son club, et qu'il est tout seul, eh bien, c'est pas facile. Et donc, Écoute Dopage il a le moyen d'en parler, il a le moyen d'avoir des professionnels qui l'écoutent, il a le moyen de trouver des solutions pour pouvoir passer ces difficultés. Également, il y a des orientations, c'est-à-dire on vous renvoie en fonction de vos problématiques vers des spécialistes, et il y a, bien entendu, l'observation du phénomène du dopage. Donc, je vous ai dit, on a eu plus de 100 000 personnes qui ont appelé, en particulier des hommes, des adultes, mais vous voyez qu'il y a également des adolescents, puisque en fin de compte, la pratique sportive, ça commence à 7 ans. Et on a des jeunes qui nous téléphonent, ils ont 7-8 ans, ils sont dans les centres sportifs de haut niveau, et ils ont des questions à poser, parce que il y a des choses qui les inquiètent ou qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez donc qui nous appelle. Eh bien, il y a des sportifs, bien entendu. Hein, c'est la. Mais c'est en fin de compte, c'est pas la majorité puisque c'est 45%. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, des médecins, des pharmaciens, des kinés, l'entourage du sportif, c'est-à-dire l'entraîneur, le président de club, etc. Mais vous avez aussi les familles, les mamans, et également, ça peut être des enseignants qui se renseignent pour faire des exposés ou pour savoir des livres intéressants, connaître des livres intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on traite comme problématique? Eh bien, évidemment, des demandes d'information, produits, la législation actuelle, comment se font des contrôles, où est-ce qu'on peut trouver des bouquins, des demandes d'aide, hein, aide à la décision, est-ce que je dois faire ça? Bon, comment le faire? Des aides à l'action, est-ce que je dois accepter d'être surclassé, etc., etc. Soutien thérapeutique, il y a des gens qui sont véritablement en situation de crise, soit parce qu'ils ont pris des produits et ça tourne mal, soit parce qu'ils sont extrêmement anxieux, ils n'arrivent pas à dormir avant une compétition et ils se demandent quoi faire, soit ils ont carrément des troubles psychologiques, c'est-à-dire ils se sentent pas bien, ils ont mal au ventre, ils ont mal à la tête, ils vomissent avant la compétition et ils se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et puis il y a expression personnelle, toute personne qui veut parler de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il a vécu. Et il y a beaucoup de sportifs de très haut niveau qui nous téléphonent en disant « Moi, ça s'est passé comme ça, mais je veux pas que ça se passe comme ça avec mes enfants. » Voilà. Et je vais vous raconter pour que vous puissiez le raconter. Hop, ça va trop vite. Voilà. Bon, ça fait rien. Si. C'est quand même... Voilà. Donc... les appels dominent dans la musculation, où en effet il y a beaucoup de prises de produits qui sont interdits. Pourquoi? Pour prendre du muscle. Ensuite, évidemment, il y a le milieu du cyclisme, hein, qui est évidemment très sensible à la prise de produits, et également l'athlétisme pour les trois premières disciplines qui se sentent particulièrement concernées. Alors, on finit avec trois exemples, hein. Ben voilà, un premier exemple d'un appel. Eh bien, un papa, ben en effet, il trouve un produit dans le sac de son fils, et donc il ne sait pas ce que c'est, il est inquiet, et donc il veut savoir si c'est un produit dangereux, si c'est un produit interdit, et en fin de compte, quand il demande à son fils lui dit, ben c'est le médecin qui m'a dit, prends, voilà. Et lui, naïvement, il prend le produit. Ensuite, un autre exemple, eh bien, voilà, c'est quelqu'un qui a des troubles secondaires importants après avoir pris des anabolisants. Hein, et évidemment, ces troubles l'inquiètent. Et l'inquiètent tellement que non seulement il a des troubles physiques, mais il a des manifestations psychiques. Et il devient très agressif et violent. Donc c'est un signe clinique très important qui montre que quelqu'un ne va pas bien et qu'il il prend des produits. Et en général, ce sont les mamans qui nous téléphonent en disant « Mon ado, ça va pas ». Ce sont les conjointes qui disent « Attention, il y a un problème » parce que lui qui n'était pas du tout violent, pas du tout agressif, il ne supporte plus rien, il casse tout. Et je sais qu'il fait de la musculation, je sais qu'il est dans un groupe, et ça m'inquiète. Voilà. Et le dernier point, voilà quelqu'un qui prend un produit extrêmement dangereux, qui est l'hormone de croissance, et évidemment, cette hormone de croissance lui est donnée par un collègue, hein, qui veut lui faire du bien, bien entendu, on donne toujours pour faire du bien, et elle est elle-même une marathonienne, et elle se demande en effet qu'est-ce que, si ce n'est pas le produit qu'elle a pris pour tenir le coup, qui produise ces manifestations psychologiques. Elle est très énervée, et là, évidemment, il y a tout le problème de l'investissement dans les activités de type footing, longue distance, etc. où les gens, pour compenser, eh bien, ont tendance à prendre des produits. Eh bien, voilà, le problème pour nous, c'est écouter pour prévenir, parce que tout sportif, c'est-à-dire vous, vous devez un jour vous assumer face à l'inévitable question qui vous sera posée et que vous vous poserez, en prendre ou pas. Et donc, on va terminer là-dessus en disant que si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, voici le site internet de mon laboratoire sur lequel donc vous pouvez aller et vous pourrez avoir ensemble des réponses détaillées, aussi bien donc sur les produits que sur la loi, que sur les recherches actuelles, que sur, disons, les connaissances scientifiques les plus modernes que l'on peut trouver actuellement dans la littérature scientifique. Je vous remercie.